Bâle, Copenhague, Kiruna, Stockholm.
Ab ham guzre, dunia guzri.
Hyderabad, Istanbul, Mumbai, Sofia, Téhéran, Budapest.
Et sans cesse, le voyage recommence pour partir vers de nouveaux horizons.
Vienne, Lausanne.
Fred.
Julie. Julie.
Fred.
Fred et Julie.
Un week-end, en Eurasie.
Vous écoutez la première, sixième étape de ce voyage eurasiatique. Après Copenhague, Kiruna, Singapour, Tokyo et Hyderabad, aujourd'hui nous sommes à Bombay et nous partons en direction de Téhéran.
Donc on est dans cet aéroport un peu tout défraîchi de Mumbai. Bombay est vraiment un peu grisouille. Il y a un bruit de ventilation là très très fort. Il y a bientôt 5 heures qu'on attend et on en a plus que pour 3 heures.
Puis là, j'étais dans les toilettes, puis je sors, puis il y avait deux indiennes. Elles étaient en train de papoter, puis elles partent. Puis finalement, elles me fixent, puis elles reviennent me voir. Puis elles me disent « Iran ?» Alors je leur dis « Oui, oui, je vais en Iran. » Et là, elles me regardent, elles me font un geste. « Il faut se couvrir, hein ?» Puis elles sont parties.
C'est vrai qu'on découvre donc ce que c'est le départ pour l'Iran, où il y a les files d'attente et puis toutes les femmes qui font le checking là autour de nous sont déjà toutes couvertes d'un foulard. C'est assez inquiétant, moi, je trouve.
Il y a ça qui est inquiétant, mais c'est pas seulement le foulard. Moi, ce qui m'intrigue beaucoup, c'est qu'elles ont comme une espèce d'uniforme. C'est-à-dire elles portent toutes soit un manteau, soit un imperméable qui a à chaque fois la même forme, avec des épaulettes, qui est très vague, donc une forme la plus vague possible, pas du tout cintrée ni rien, et qui s'arrête au ras des chevilles. Et puis pour celles qui sont le plus couvertes, elles ont, j'ai regardé, elles ont des sandales, mais elles ont en fait des bas, plus des chaussettes par-dessus. En fait, apparemment, c'est vraiment important effectivement de se couvrir les fesses. Il n'y a pas que la tête, il y a les fesses aussi.
Enfin, c'est-à-dire que non seulement il faut une longue robe, mais en plus un manteau qui casse toutes les formes depuis les épaules jusqu'aux pieds, c'est ça?
On a l'impression qu'on rentre vraiment dans un autre monde et qu'on ne peut pas dire « Oui, mais nous, on est Suisse, donc on est différent. » J'ai l'impression qu'on est obligé de se plier à la règle et d'accepter, sinon on va pas en Iran, on va ailleurs.
Mais c'est assez étrange parce que c'est-à-dire toutes les femmes qui vont aller là-bas donc se couvrent quelques mètres avant le guichet. Alors que derrière les guichets, il y a des indiennes très ravissantes, en sarie, avec les épaules dénudées. Et c'est vraiment un contraste. Les indiennes derrière le guichet sont encore en Inde, ici à Bombay, et les femmes sont déjà en Iran avec la loi stricte et formelle de l'Iran, alors qu'on les a vues une heure plus tôt se préparer, sans rien du tout sur la tête. Alors j'ai dit, qu'est-ce que tu balades dehors?
En fait, je ne m'attendais pas du tout à ça. Il y a des montagnes qui se détachent à l'horizon et elles se dessinent à peine. On voit, elles sont marron clair et puis bleu clair. Et puis la première rue sur laquelle on est tombé, c'est sur des peintures d'Imam Khomeini. Et là, on est dans un taxi, donc la musique qu'on entend est donc une musique qui est totalement interdite ici en Iran.
Il faut savoir que toute musique occidentale est interdite par excellence. Et puis le talk qu'on entendra peut-être plus tard, c'est Céline Dion, qui non seulement est occidentale, mais voix de femme, donc formellement interdite. Nous sommes dans un grand parc au centre-ville de Téhéran, au sud du nord, disent-ils ici. C'est notre première journée à Téhéran, c'est aussi la première fois qu'on va sortir notre micro en plein air. On est donc là sous des arbres, à l'abri des pins, et puis sous un cerisier en fleurs. On sort un micro, il y a un très très fort son de grésillement. Ça grésille partout, on ne sait pas si c'est des antennes. C'est très étrange, parfois il y a des voix qui interfèrent avec nos enregistrements. Et on apprend à vivre cet Iran qui nous intrigue. Toutes nos questions se tournent autour de qu'est-ce qu'on a le droit de faire.
On a l'impression malgré tout qu'il y a beaucoup d'interdictions. Du coup, on ne sait pas vraiment comment se comporter. Bon, il y a plein de règles. Il y a des règles que les gens ne formulent pas. Et puis des règles obligatoires. Et puis on a l'impression qu'il faut aussi y avec.
On n'a pas le droit par exemple d'être l'un vers l'autre. Ou on ne peut pas se donner la main. Alors du coup, on essaie d'être le plus distant possible. Mais après, on se dit, mais est-ce qu'on peut s'asseoir sur un banc l'un à côté de l'autre? Et puis tout à l'heure, on a fait une petite balade romantique.
Nous sommes allés en barque dans un minuscule lac de quelques mètres carrés seulement, et progressivement il s'est rempli de pédalos et d'autres barques où il y avait essentiellement des familles. Donc apparemment ça a l'air d'être l'une des distractions principales de ces gens qui viennent dans le parc.
Et là on entend le doux clapotis des vagues et on entend surtout ces grésillements dont on parlait juste à l'instant. Ça c'est un enregistrement d'ambiance, toute sobre, toute simple. Et ces voix, ces grésillements qui passent d'un côté et de l'autre de nos écouteurs. Et ça accentue, c'est vrai, notre parano, parce que déjà on sait pas comment on va faire dans ce pays. Avec tout ça on s'est dit, mais si en plus on peut rien enregistrer sans être assailli par des voix extérieures, on va se transformer en Jeanne d'Arc.
Ça, c'était notre première journée dans la ville de Téhéran, donc au cœur d'un parc. On est arrivé hier soir, tard dans la nuit, vers minuit, 1h du matin. Serge et Marie-Laure, nos hôtes, sont venus nous chercher. Tout de suite, nous ont donné le ton de cette ville, en surtout en disant non, on ne s'embrasse pas ici, parce qu'en public, les hommes et les femmes n'ont pas le droit de se toucher. Et de même, Marie-Laure m'a dit, fais attention à ton foulard, il ne faut pas l'enlever, il faut bien cacher tes cheveux. Donc tout de suite, on était dans une situation très stressée, très stressante. Et puis, avant cet épisode, avant d'arriver et de voir Marie-Laure et Serge, il y avait eu l'épisode de la douane, qui n'était pas très facile non plus.
Ouais, on est arrivé à 1h du matin et puis on avait dans nos bagages tout le matériel sonore, les micros, lecteur digital, des mini-disques, des CD qu'on apportait de la musique en Iran.
Et une bouteille de whisky.
Et une bouteille de whisky qu'on avait acheté au Duty Free Shop en Inde pour apporter à nos amis en disant le soir on va aller boire des petits coups.
Mais déjà dans la queue on a senti une sorte de pression avant de montrer nos passeports. Il y a un monsieur qui a dit à Frédéric, il faut enlever ta boucle d'oreille, là c'est quoi, ici c'est les rebelles qui ont des boucles d'oreilles. Alors il a enlevé sa boucle d'oreille. Ensuite on est arrivé à la douane même, où là on a vu que tous les bagages se faisaient ouvrir dans tous les sens. On s'est dit bon, qu'est-ce qu'on fait?
Et puis on a reçu une feuille aussi où on devait dire n'avoir aucune arme chimique, n'avoir pas de matériel pornographique, pas de vidéo compromettante, aucun support sonore, et puis pas d'alcool à la fin de cette liste. On s'est dit on peut pas signer puis faire semblant de passer, ils vont ouvrir nos sacs, on est foutus.
Alors on a ouvert notre sac, on a tout de suite montré la bouteille d'alcool.
On a vite refermé le sac derrière, comme ça on s'occupait pas du reste.
Et tout de suite ils ont focalisé. Quoi, une bouteille d'alcool? Il y a le type toujours qui avait dit à Frédéric d'enlever sa boucle d'oreille. Il dit mais enfin, nous sommes en République islamique, vous le savez, vous n'avez pas le droit d'avoir de l'alcool sur vous. Et moi, de mon côté, il y avait les femmes, toutes voilées, qui me disaient en anglais « Mais laissez-vous pas avoir, à la douane c'est toujours comme ça, ils veulent vous confisquer, mais vous êtes des étrangers, vous
résister,
avez d'autres droits. »
Résister. Alors nous on disait « On est en lune de miel, on est en lune de miel !» On inventait n'importe quoi pour se dire « Peut-être ça va passer, mais comment ça, en Iran, mais vous rigolez et tout ?» On ne nous croyait pas du tout. Donc on a palabré, on a discuté, et puis tout d'un coup, on est passé donc au bureau suivant, et puis l'homme s'est dit « Ok, veuillez me suivre. » Et il a pris la bouteille devant lui, et il a traversé la douane, comme ça, en tenant la bouteille devant lui, et moi je suivais avec les mains dans les poches.
Parce que ce qu'avait pas compris Frédéric, c'est qu'en fait, il avait l'intention de jeter cette bouteille de whisky dans les toilettes.
Voilà, Julie avait compris, moi pas. Donc on arrive aux toilettes, il a débouché la bouteille, enfin il a ouvert le carton qui l'emballait. J'ai dit non, je l'ai acheté, il en est pas question. On m'avait dit, il faut résister, alors il dit au suivre. Il nous a fait revenir dans l'autre sens, on a encore rediscuté pour qu'on aille dans un autre bureau. Et là, ils ont ouvert un grand coffre-fort, ils ont mis la bouteille dedans et ils ont rempli une sorte de récépissé. Monsieur Fred a une bouteille d'alcool, qu'on a fait traduire donc ce récépissé par la suite, et qui disait...
On a appris quelque chose de très drôle, c'est qu'il y avait marqué « Nous avons Frédéric Chauffa a déposé une bouteille de whisky dans le coffre-fort de la douane, une bouteille ouverte. »
Et entamée.
Alors on pense qu'elle est toujours dans le coffre-fort, peut-être en Iran, mais certainement remplie de thé ou d'eau au choix, mais certainement plus de whisky.
Et puis ce qui est très drôle, c'est que donc, le fonctionnaire, le chef des douanes m'a dit « Vous inquiétez pas, il y a des très bons vins en Iran, et puis on a une sorte de vodka, pas piqué des verres. »
Alors que bien entendu... Boire du vin en Iran, c'est risquer les coups de fouet, voire peut-être plus.
Et voilà, donc ensuite on est reparti, tout penaud, sans rien avoir à offrir, à nos amis qui nous attendaient, Serge Michel, Marie-Laure, Badiolini. Eux, ce sont des journalistes, des correspondants, journalistes là-bas. Et puis on s'est dit, bah, ça va être notre clé d'accès à ce pays si étrange, on n'y connaît rien. Heureusement qu'il y a eux, et on va profiter d'eux d'ailleurs, pour découvrir un petit peu plus comment est fait ce monde et comment on travaille dans un monde comme ça.
Bon, alors d'abord, vous faites quoi à Téhéran ?
Ben, on est correspondant pour différents journaux et télévisions. On s'est installé il y a 3 mois. Et puis, on essaye de parler de l'Iran à des journaux en Suisse, en France, qui n'ont jamais eu de correspondant ici. Donc, c'est un petit peu difficile.
Donc, vous êtes qui ?
Je m'appelle Marie-Laure Widmer-Badjolini, j'ai 31 ans. J'ai travaillé à la télévision suisse romande pendant 7 ans, et là, j'ai pris une année sabbatique pour suivre mon mari en Iran. Non, mais ça va très bien, ça se passe très bien. En fait, c'est vrai que j'avais beaucoup de réticence à venir ici, étant donné la situation de la femme, enfin, du moins ce qu'on s'imagine en Occident. Et puis, je suis vraiment très surprise. Ça fait 3 mois qu'on est ici. Et puis, j'ai demandé à ce que mon année sabbatique soit prolongée. Alors, on verra, j'attends. J'attends, mais j'aimerais bien rester encore.
Serge Michel, 30 ans. J'étais journaliste au journal Le Temps, brièvement, au Nouveau Quotidien plus longuement. J'avais pas de réticence à venir ici du tout. J'étais même assez enthousiaste et j'ai réussi à convaincre Marie-Laure de venir ici, quoi.
Pourquoi l'Iran ?
Ben, je sais pas, il faut regarder un peu la carte parce que c'est toute une région du monde où il y a d'abord pas beaucoup de journalistes. C'est une région en transition, c'est un pays qui s'ouvre, c'est un pays qui a une énorme différence entre la situation réelle et le cliché qu'on peut en avoir en Europe. Donc c'est a priori un pays où on peut travailler comme journaliste pour rétablir cette différence entre le cliché et l'image réelle du pays.
Non, moi j'ai suivi. Hein. L'Iran, c'était pas mon choix, moi c'était l'Amérique du Sud. Et il sait qu'il va me le payer très cher parce qu'après ça sera 7 ans d'Amérique du Sud.
En fait, ça correspond tout à fait à l'image de la femme soumise que tu perpétues là, ici.
Oui, mais je pense qu'en Europe, malgré le fait qu'on dise qu'elle soit très émancipée, je pense que quelque part les Iraniennes me donnent pas mal de leçons sur ce point de vue-là, je crois. Elles connaissent leurs limites. Elles connaissent leurs droits et puis elles en usent au maximum. Elles essaient toujours de repousser les limites et puis elles s'affirment. Et je pense qu'elles sont beaucoup plus vivantes et elles existent beaucoup plus que nous en Europe en tout cas.
Ici, elles sont vraiment dans une bagarre tous les jours pour affirmer leur existence.
Et les femmes, elles mènent la barque, elles portent la culotte, elles sont vraiment fortes. Ouais, elles cherchent à faire vivre le ménage, les enfants, les grands frangins, les demi-frères qui sont en âge de travailler mais qui sont au chômage, qui réussissent rien du tout, quoi. Puis elles se battent, elles continuent, elles baissent pas les bras.
Il y a une force comme ça en attente de femmes en Iran. Je pense que le pays ne s'est développé pour l'instant que sur une jambe. Et encore sur une jambe un petit peu boiteuse parce que les hommes sont partis à la guerre, les hommes ont des problèmes. Non, c'est vrai, il y a des trous de génération chez les hommes parce qu'il y a quand même pas mal de victimes dans cette guerre qui a duré 10 ans avec l'Irak. Les hommes, ils tiennent pas la route, il y a beaucoup de problèmes. دست بدیم به دست هم قهر نباشیم دم به دم دعا کنیم سال دیگه تو خونه باشیم دور هم بیگی ما دیدن ایرونه شهرهای شمالی و تهرونه شهر شیراز و یزد و تبریز آبادان و اصفهان کرمونه همه ایرونه همه ایرونه همه ایرونه Thank you.
رومه شهر شیراز و یزد و تبریز آبادان و اصفهان کرمونه همه ایرونه همه ایرونه همه ایرونه
En tant que journaliste, vous dites avoir choisi cet endroit pour des raisons, il y a peu de journalistes, c'est un pays en voie de développement politique très intense. Est-ce qu'on vit facilement 2 ans, au jour le jour, avec simplement un désir intellectuel à la base ?
Bah, c'est clair qu'il faut trouver des journaux en Suisse, en France, qui sont d'accord de parler plus de l'Iran qu'avant. Et c'est ça qui nous aide à vivre, parce qu'on écrit un article, il faut trouver preneur, donc on appelle ça à la pige. Chaque fois
mais il te demande si ça te suffit pour vivre 2 ans ici, le travail intellectuel et que les loisirs passent à la trappe, que tu vas pas au cinéma, qu'il n'y a pas vraiment de théâtre, tu peux pas aller voir de la danse, tu peux pas... Alors c'est vrai que pour l'instant ça va, ça fait 3 mois qu'on est là et ça fait 3 mois qu'on bosse comme des fous. Et en plus, les choses se passent pas dans la rue, se passent pas au restaurant, se passent pas au cinéma. Enfin au cinéma on y est allé pendant le festival du film ici. Sinon, on n'est encore jamais vraiment sorti, parce que chaque fois, ça se passe dans les maisons. Alors, tu te fais inviter, et entre les soirées où on travaille et puis les soirées où on est invité, pour l'instant, on n'a pas le temps, quoi.
On a vécu 5 ans à Nyon, dans la zone culturelle peut-être la plus dense, entre le festival de Nyon, les trucs qui se passent à Lausanne, le festival de Montreux, les cinémas de Genève. On était mobiles, etc. Et finalement, on n'a pas beaucoup profité de l'offre culturelle en Suisse. Je ne vois pas une région en Europe qui a autant de festivals, de théâtres, de musées, etc. Et qu'est-ce qu'on a le temps d'en profiter ? Alors ici, on passe peut-être 2 ans, peut-être qu'effectivement, on ne verra pas tous les films qu'on aurait pu voir en Europe. Peut-être qu'on n'a pas certains plaisirs comme de sortir, d'aller boire une bière sur une terrasse. C'est vrai qu'il y a des choses qui manquent. En même temps, il y a une chaleur ici, il y a un accueil incroyable qui compense.
Oui, c'est vrai que c'est un pays qui est fermé à la base et j'ai l'impression que tout d'un coup, ça se soude et puis il y a une solidarité qui n'existe pas ailleurs, effectivement.
On est peu. Je pense que c'est aussi un moment de grâce dans l'histoire du pays parce qu'il n'a jamais été si ouvert, il n'a jamais été si libre. Il ne l'était pas avant la Révolution. Le Shah était quand même un régime très répressif. Il ne l'était pas directement après la Révolution. Il y a eu la guerre, il y a eu tout ça. Et maintenant, tout d'un coup, ça s'ouvre. Les Iraniens adorent recevoir des étrangers à la maison pour discuter, des grandes questions, etc. C'est un pays où on arrive, on s'assied à table, et puis au bout d'un quart d'heure, on est déjà à parler de choses essentielles, de grands problèmes de la vie, de la liberté, du rôle des femmes dans la politique, du rôle des intellectuels. On fait des grandes comparaisons historiques, etc. Alors que les soirées en Suisse, finalement, il y a une petite routine qui s'installe, et puis il y a des gens qu'on a connus pendant 4-5 ans, on s'est rencontrés régulièrement, on a bu des verres, on était au cinéma, et finalement, on n'est jamais entré dans les choses un peu profondes.
Non, moi, je me suis aperçue qu'il y a des amis en Suisse qu'on connaît depuis 10 ans et que je ne connais pas aussi bien que certaines personnes que j'ai connues ici à Téhéran depuis 3 mois.
Parler de l'apparence, de comment ça se passe d'être dans les rues de Téhéran, costumé, surtout pour les femmes. Comment ça se fait quand on est amoureux, comme vous deux, de se balader des journées entières dans les rues, sans se donner la main, sans s'embrasser dans les petits moments furtifs comme ça ? Comment vous le vivez ?
Oh, parfois on y arrive quand même.
C'est-à-dire que là, Serge est un peu plus audacieux que moi, parce que de temps en temps, c'est vrai qu'il s'approche de moi, puis il me dit « Allez, vite, un petit bec !» Puis je dis « Non, non, on nous regarde en face du trottoir. Ou... » J'ai toujours l'impression qu'on nous regarde, parce que c'est vrai que quand on est étranger, on est regardé. On passe pas inaperçu du tout ici. En plus, on n'est pas regardé de manière hostile. Au contraire, ils regardent ça en se disant « Bah tiens, il y a des étrangers qui osent venir chez nous, qui sont un peu curieux, qui veulent savoir qui on est, nous disent bienvenue, qui sont vraiment charmants, les gens, avec les étrangers. » Alors c'est vrai que t'es plus regardé. En plus de ça, comme j'ai des accoutrements colorés, pas toujours islamiques, donc je suis regardée encore plus. Alors c'est vrai que si Serge essaie de me voler un baiser dans la rue, en général je suis mal à l'aise. Je lui dis de laisser tomber.
Moi je suis d'avis qu'il faut essayer de voir ce qu'on peut faire. Si quelqu'un vient nous dire que ça se fait pas, on leur dira excusez-nous, on savait pas. Et puis voilà, il faut jouer un peu les imbéciles, mais moi j'aimerais bien essayer de temps en temps.
Et du coup, tu les trouves pas meilleurs ces baisers?
Mais si elle me les donnait, je les aimerais bien, oui.
C'est moi qui les censure.
Non, c'est vrai que je pense que, par exemple, pour Marie-Laure, ça doit être assez vexant de se faire rabrouer, d'avoir quelqu'un qui vient puis qui lui dit « Ah, ton voile, il est pas bien, tes habits sont trop colorés. » Ça doit être angoissant pour elle. Donc, elle a peut-être pas envie d'aller jusqu'à la limite. Moi, je me sens, ma foi, assez solide. Et puis, si quelqu'un vient me dire qu'il a pas aimé ce que j'ai fait, je lui dirais « Ben, je prends note, et puis voilà.
Bah, » C'est-à-dire que t'as pas grand-chose à te reprocher à part le bisou, toi, si jamais. Parce qu'un homme ici est un homme comme un homme en Suisse ou ailleurs dans le monde. Tu peux te promener en bras de chemise, tu peux te promener maintenant même en t-shirt, ce qui était, il me semble, interdit pour les hommes avant, mais qui est de plus en plus courant. Et donc un homme n'a jamais rien à se reprocher, à part le bisou. Donc une femme, elle a toujours quelque chose à se reprocher, parce qu'il y aura toujours la mèche qui sort trop du foulard, il y a toujours, dans mon cas, le manteau qui sera toujours un peu trop court, ou alors j'aurais oublié de mettre des chaussettes, parce que j'aime pas mettre les chaussettes, il commence à faire chaud. Alors donc il y a des centimètres carrés de peau, et donc t'as toujours quelque chose à te reprocher. Alors, toi c'est plus facile, toi si t'as que le bisou qui cloche, t'as que le bisou qui cloche, mais moi s'il y a le bisou qui cloche, mais qu'en plus de ça il y a la mèche de cheveux qui sort, il y a pas de chaussettes, et puis il y a le manteau trop court, ça commence à faire beaucoup de choses, là je suis bonne pour les coups de fouet là.
La société iranienne maintenant ne sait plus très bien ce qui est permis et ce qui est interdit. C'est assez intéressant, il y a des gens pour qui tout est interdit et qui regardent avec des yeux absolument grands ouverts des choses que pourtant sont acceptées juste à côté. Il y a un grand flou qui existe. Personne ne sait et tout d'un coup, t'as l'impression que t'es complètement libre, qu'on peut danser, qu'on peut chanter, qu'on peut etc. Et puis tout d'un coup, la répression s'abat sur des amis qu'on connaît. On connaît une famille où la fille a été surprise en train de danser avec des garçons. Alors, elle a été passée au fouet.
Pas toute seule, hein?
Pas toute seule. Tout le groupe de jeunes a été fouetté. 40 coups pour les filles, 60 pour les garçons. Et alors, on sort d'une journée splendide à Téhéran, on a l'impression que tout va bien, on a vu des gens super, tout est chaleureux.
Ils se tiennent par
tout,
la main.
Tout est joyeux, et tout d'un coup, on tombe sur une nouvelle comme ça en fin de journée. C'est vrai que ça a fait un peu froid dans le dos. On ne sait pas très bien où on est. Alors, il y a des gens qui disent que c'est un régime à l'agonie, que c'est un régime autoritaire qui est en train de mourir et qui, dans son agonie, dans sa mort lente, à des soubresauts de violence et des soubresauts qui peuvent tuer des écrivains, qui peuvent fouetter des jeunes, mais qu'à coup sûr, on va vers la mort du régime sous sa forme autoritaire. Alors c'est une analyse qui est possible, en tout cas, quand tout d'un coup, il y a un spasme dans cette agonie et que ça frappe fort. Thank you.
Fred et Julie à Téhéran avec Serge Michel et Marie-Laure Benjoghili.
Et si on repasse maintenant sur le plan plus personnel de la vie à Téhéran, quelle est la chose qui fait que peut-être que vous allez avoir envie de vous établir, d'avoir des enfants à Téhéran, de... Non, surtout pas, fais la tête, Marie-Laure. Quelle est la chose qui vous donne espoir dans les rencontres que vous avez avec les gens ou dans les instants de tous les jours?
L'espoir, c'est que tout change. Je veux dire, on est dans une société qui change à grande vitesse. Il y a ici des choses qui se passent d'un jour à l'autre. Paf, c'est différent. Les gens ont une liberté supplémentaire. On vit dans une société en changement rapide. Quand on vient de Suisse et qu'on a vu comment c'est difficile en Suisse de changer la constitution, de faire passer une loi, d'adhérer éventuellement à l'Europe, etc. La Suisse est une société complètement frigorifiée, anesthésiée. On a l'impression que tout prend un temps infini, que tout effort s'annule d'une manière ou d'une autre par l'effort de quelqu'un d'autre, qu'il faut recueillir un consensus désormais impossible pour faire avancer quoi que ce soit. On arrive ici en Iran, il y a quand même 70% de la population qui a voté pour Khatami. D'après les derniers sondages, ce serait 78%. Donc on a une population unanime, quasiment, qui veut du changement, qui veut de l'ouverture, qui est prête. La nouveauté est à fleur de peau. Une autre chose qui fait du bien aussi, c'est cette espèce de politisation des gens. Ici, tout le monde est au courant de ce qui se passe. Les rumeurs font le tour de la ville en un quart d'heure. Quand un journal ferme, tout le monde se le dit, même les gens qui ne lisent pas ce journal. En Suisse, il y a une sorte de côté amorphe comme ça. Est-ce que les gens suivent vraiment la politique fédérale? Quel auditeur de la radio peut dire « voilà, j'ai suivi à fond les sessions des chambres fédérales » Non, on peut pas, on ne sait plus si c'est un projet, un contre-projet, si c'est la deuxième navette ou la troisième navette entre les deux chambres, entre le Conseil des États ou le Conseil national. On a un côté amorphe de la politique suisse, on a un côté ennuyeux, un côté lent. Alors il y a des grands enjeux. L'adhésion à l'Europe, c'est un grand enjeu pour la Suisse. L'adhésion à l'OTAN éventuelle, c'est un grand enjeu aussi. Il y a des choses fondamentales et finalement, les gens ne vivent pas ce côté fondamental, ne le traduisent pas en énergie propre. Et voilà, ils vont à leur boulot, ils se plaignent de la vie quotidienne, ils ont des petits ennuis, etc. Ils vont prévoir leurs vacances. Ici, les gens... Tout ce qui se passe en politique, ça se traduit immédiatement dans les gens. Tout d'un coup, on voit des amis déprimés parce qu'il y a une mauvaise nouvelle, il y a quelqu'un qui s'est fait arrêter, qui est en prison parce qu'il a émis quelques idées qui ne sont pas encore admises. Ou alors on sent une joie fabuleuse, il y a une vraie gaieté parce que tout d'un coup, l'ayatollah, je ne sais pas quoi, a dit... exemple, un jour, Khatami, le président, a dit « on ne peut pas exiger que les jeunes ne fréquentent que la mosquée ». C'est une phrase qui semble anodine. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Il a voulu dire que les jeunes doivent aussi fréquenter des lieux qui sont différents. Alors c'est quoi les lieux différents de la mosquée? Ça peut être des lieux où les jeunes se rencontrent, où les jeunes écoutent de la musique, où les jeunes lisent des livres. Et donc c'est une ouverture incroyable par rapport au régime autoritaire qui a prévalu jusqu'à présent, où les jeunes n'avaient pas le droit de se rencontrer, de faire connaissance, de tenir la main, etc. Il a dit exactement, on peut comprendre que les jeunes n'aient pas envie de fréquenter que les mosquées. Cette simple phrase... a mis tout le monde en joie. Il y avait dans les rues de Téhéran des gens qui souriaient rien que parce qu'ils avaient entendu ça, et ce sourire, ils l'ont gardé 3 jours. Et ils en parlent encore.
Le jour où vous rentrez en Suisse, qu'est-ce qui va vous manquer de Téhéran?
Oh, moi, je rentre plus en Suisse. Hein. Je dis pas que je reste à Téhéran, mais je rentre plus en Suisse. Non, mais on fait des découvertes au quotidien. J'ai l'impression qu'en 7 ans en Suisse, parce qu'avant, j'étais à l'étranger pour mes études, et en 7 ans en Suisse, j'ai l'impression d'en avoir moins appris. Bon, j'en ai appris énormément au point de vue professionnel, mais au point de vue personnel, j'en ai appris nettement moins qu'en 3 mois ici. Et toi?
Qu'est-ce qui nous manque quand on rentre en Suisse? Moi, je suis un peu différent. J'ai peut-être plus de racines en Suisse et plus d'attachement à certains coins de la Suisse. Oui, non, tu tires une drôle de tête, mais c'est vrai, je sens que j'ai des racines et je pense que je pourrais pas me passer complètement de la Suisse. Moi, j'ai passé 20 ans à Yverdon avec du brouillard, avec de la pluie, et j'ai aimé ce brouillard, aimé la pluie.
Il y a
de très belles lumières en hiver, il y a des choses qui me plaisent en dehors des vacances. Et il y a des choses à faire en Suisse un petit peu. Enfin, moi, je fais une déclaration d'amour à la Suisse, là, en ce moment, donc il faut que j'explique pourquoi on est parti, mais on sent quand même que la Suisse est un pays construit, un pays fini. Pour avoir une nouvelle idée en Suisse, il faut vraiment trouver l'idée qui a exactement les dimensions de s'insérer, paf, entre les deux idées qui sont à côté, et qui sont souvent des gros blocs inamovibles. On ne peut pas pousser des montagnes en Suisse, il faut vraiment se faire petit, trouver l'idée. Un projet, il faut son financement, le financement, il faut son sponsor, le sponsor, il doit être content, etc. Enfin, il y a cette idée que tout ce qu'on peut faire en Suisse est relativement mesuré, petit, etc. Ici, on sent qu'on a beaucoup plus les coudées franches, quoi. Depuis qu'on est à Téhéran, on a rencontré un type qui veut qu'on écrive des scénarios, il y a un... On a plein d'idées de business, d'affaires, de projets, etc. Et en Suisse, on se sent plutôt étouffé par ça. Alors je sais qu'il y a des gens qui s'en sortent et j'admire la possibilité de s'en sortir.
Fais gaffe parce qu'ils ne vont pas te renouveler ton passeport en Suisse.
Hello, Julie. Salam. Welcome to host. Welcome to Iran.
Salam.
Salam.
Ce soir, nous sommes chez Azadeh qui nous a invités à manger. Il y a sa mère, Mariam, son demi-frère et ses deux enfants. Nous sommes encore avec Serge et Marie-Laure.
Et rappelons que toutes ces rencontres, nous allons discuter politique, sont enregistrées en avril. Nous sommes en avril cette année, les événements estudiantins n'ont pas encore éclaté, même si la situation politique reste la même.
چه کنم من چه کنم
Alors, nous sommes entrés dans une maison. D'abord, il y avait une porte qui donnait sur l'extérieur, une petite cour où on enlevait nos chaussures. Ensuite, un corridor avec toute la famille, la mère, la grand-mère, les petits-enfants. Et ensuite, on nous met dans une petite pièce avec un gamin par terre. Et puis un grand tapis, et puis aucune fenêtre, tout est fermé, des rideaux partout. Et on s'asseye par terre à côté des grands-mères. Donc il y a le garçon qui est un peu plus grand, qui doit avoir 20 ans, qui sait apprendre l'anglais. Deux enfants qui sont entre 12 et 14 ans. Et puis autrement, des femmes, une grand-mère, une fille et la petite fille. Et même peut-être l'arrière-petite fille.
Juste avant que vous arriviez, elles ont toutes enlevé leur foulard et elles nous ont montré leur coupe de cheveux. Donc elles viennent de se faire couper les cheveux. Et donc elles ont les cheveux tout courts et c'est la première fois que je les vois sans foulard.
La grand-mère m'a souhaité la bienvenue par une phrase très éloquente qui veut dire que je peux mettre mes pieds sur son visage. Et il paraît que Hafez a écrit beaucoup de choses là-dessus.
Sur
l'œil même, et pas sur le visage, sur l'œil. Donc elle a bien aimé, que j'aimais tellement qu'elle pouvait me marcher sur le visage, c'est ça? Ou me déposer ses pieds sur l'œil toujours. Et donc, comment on dit ça? En Parsi. Cette petite grand-mère est tellement adorable que j'ai pas voulu lui mettre mes pieds qui sentent pas très bon sur l'œil, mais l'idée me plaît beaucoup.
Michel, 12,7 dollars.
Yeah.
Michel, je t'aime.
Je t'aime.
Il a un yacht de modèle,
Ici, c'est la cuisine. Il y a un samovar. Très beau.
Yahyai, Fadur. Yes. Brodian and Fadur Factory.
Donc c'est un samovar fait par le père et le frère. Donc c'est l'industrie de la famille apparemment. Elle nous sert du thé. Il y a son petit garçon qui s'accroche à ses jupes. La cuisine, en fait, il y a deux énormes frigos, une petite glace. Il y a aussi encore un tapis par terre.
Bosch.
En arrivant dans cette maison, on voit que les femmes ici ont une place importante. On voit que les femmes ne sont pas des femmes qui vont se cacher dans un coin à la cuisine, mais qu'elles ont un pouvoir de décision et qu'elles ont une place très très importante dans cette maison.
Tu peux lui demander où sont les hommes dans cette famille?
On n'en a plus. Oui, c'est tout. Elle est divorcée.
Et le mari?
Shohar,
à Mashhad.
Il est à Mashhad. Qu'est-ce qu'il fait là-bas?
Je ne sais pas.
Il était drogué, donc on est en train de se séparer. Je n'ai pas de nouvelles.
Attendez,
je me débarrasse déjà du premier. Je vais en trouver un autre.
Est-ce que tu vas te remarier? Et est-ce que tu as plein de prétendants?
J'ai beaucoup de prétendants, surtout de la famille, mais j'ai tellement mal vécu la première vie commune que maintenant je n'ai pas envie. Et sa mère qui dit, de toute façon, je ne la laisserai plus, parce que le premier mari, c'était elle-même qui avait choisi, et la deuxième, ce sera moi. La prochaine fois, c'est ma décision.
Oui, sauf que vous, la première fois, vous vous êtes aussi trompée, et elle s'est aussi trompée la première fois. Donc la deuxième fois...
Elle dit que ce n'était pas mon choix quand je me suis mariée, c'était la faute de mes parents qui m'avaient forcé de me marier avec lui. Mais le deuxième mari, c'est moi-même qui l'avais choisi et il était très bien. Ne vous inquiétez pas, mon choix est bien.
Bon, il est comment alors?
Je veux qu'il soit absolument pas jeune d'abord. Qu'il soit quand même assez riche, pas beaucoup, mais quand même qu'il ait une maison, une voiture et une vie quand même assez confortable. Et la condition, c'est qu'il garde aussi les enfants.
Bon, alors, est-ce que tu veux d'un mari vieux avec une voiture et une maison?
Je n'aime pas.
Non,
je ne me remarie pas. 40 ans. Elle veut lui trouver un mari de 40 ans. Elle a 32 ans, alors un mari de 40 ans, c'est pas vraiment vieux. Ça y est, elle est d'accord maintenant.
Il y en a un qui nous a appelé, enfin quelqu'un de la famille qui nous a appelé en disant qu'il y a un monsieur qui a eu son doctorat, qui habite à l'étranger et qui a un ou deux enfants, je ne sais plus, et que voilà, alors ça serait pas mal pour se remarier avec lui. Donc ça se fait comme ça. À ce monsieur-là, on a dit non, parce que ça serait trop tôt, donc j'ai dit carrément non. Mais en fait, elle dit que plusieurs fois, c'est arrivé que les gens qui étaient séparés avec les enfants, ils engagent quelqu'un pour garder les enfants. Et après, à un moment donné, ils tombent amoureuses et ils se marient. Et moi, j'ai l'impression que ma fille va se remarier dans des conditions pareilles. Et c'est mon sixième sens qui me dit ça.
Est-ce que le sixième sens lui fait dire qu'elle a envie de se marier avec un homme qui vit à l'étranger?
La mère qui ne laisse pas la fille répondre, ça j'aime bien. La mère dit oui, oui. Elle dit si jamais il y a quelqu'un qui me demande la main et qui habite à l'étranger, si au niveau de mes religions, de mes croyances, il n'y a pas de problème, pourquoi pas?
Par rapport à la tradition, est-ce que c'est facile de divorcer en Iran?
Non, c'est très difficile, parce que d'habitude, c'est l'homme qui doit décider. Enfin, au début, c'était comme ça. Maintenant, c'est un peu changé au niveau des lois. Mais à l'époque, elle a dépensé, elle dit, le prix d'une maison entière pour pouvoir me divorcer, parce qu'il ne voulait pas, lui.
Et est-ce qu'on a le droit d'avoir plusieurs femmes ici?
Bon, je te dis ce que je sais, avec une fusion de ce qu'elle raconte. C'est qu'on a trois choses. C'est ce qui est marqué dans le Coran, ce qui est permis par la loi et ce qui se passe réellement dans la société. Alors, dans le Coran, c'est marqué, vous pouvez aller jusqu'à quatre femmes à condition que toutes les quatre soient complètement égales de tous les points de vue, c'est-à-dire l'impossible. Donc, en fait, à mon sens, le Coran ne permet pas, parce que jamais tu pourras avoir tout également pour quatre personnes. C'est impossible. Ce qui est permis par la loi, c'est que la première femme doit donner sa permission écrite pour que le mari se remarie. D'accord. Mais ce qui se passe dans la société, c'est qu'avec plein de détours et tout ce que tu peux faire éventuellement hors de loi, avec tout ça, tu peux remarier sans avoir la permission écrite de ta femme. Et ce qui est arrivé à ces deux femmes, quoi.
Et est-ce qu'une femme a le droit d'avoir plusieurs maris?
زن ها میتونن چند تا شوهر داشته باشن؟
با زمانی که ببین زن حالا من خودم
نو پور نو و پور الاسلام و پور لا کولتور سا وا پا دو تو دو کام پوان دو فی سا وا پا.
Tu voudrais pas deux maris?
Ça me dégoûte. C'est impossible. Ce n'est pas juste. Ça, c'est pour les prostituées plutôt. Non.
Mais qu'un homme ait plusieurs femmes, ça, c'est juste?
c'est pas juste non plus.
Mais alors pourquoi le Coran propose quelque chose aux hommes qui propose pas aux femmes?
Dieu et le Coran, moi je sais pas comment ça se fait. On a entendu qu'à l'époque c'était comme ça, mais on n'a jamais vu, on ne sait pas comment c'était en réalité. Moi, quand je vois quelque chose par mes propres yeux, j'accepte. Mais je ne peux pas accepter que Ali avait plusieurs femmes, ni Mahomet, parce que je n'ai pas vu. Je ne dis pas que c'est un mensonge, mais je dis que je n'ai pas vu, alors je ne sais pas. Moi, puisque je suis jalouse personnellement, je ne pourrais pas vivre ça.
Et est-ce que ça veut dire que les hommes qui dirigent le gouvernement, ici ou dans n'importe quelle autre république, ils arrangent aussi un peu le Coran? Parce qu'ils sont des hommes.
Alors il dit que chacun l'interprète comme ça l'entend et comme il le sent. Et en fait, c'est vrai que c'est plutôt les interprétations qui donnent un aspect pareil du mariage.
Une interprétation faite par des hommes,
dans ce cas ici.
Oui, et justement, c'est pour ça qu'ils les tournent dans leur intérêt.
Et alors, si tu étais au gouvernement ou chef spirituel, qu'est-ce que tu décideras?
Moi, je dirais que Dieu est unique et l'homme dans la famille, dans le couple, doit être unique aussi.
Si c'était des femmes au gouvernement, est-ce que le pays serait différent?
Oui, certainement, ça changerait beaucoup. Et déjà, on voit que dans l'état de Khatami, il y a pas mal de femmes. Par exemple, il y a pas mal de conseillers de Khatami qui sont femmes et puis des gens dans l'assemblée et tout. Et déjà, on sent des changements. Et c'est vrai que la femme, par les sentiments qu'elle a, naturellement, ça peut jouer quand même un autre rôle.
Vous écoutez La Première, Fred et Julie, nous sommes à Téhéran.
Nous sommes dans une grande maison, Azadeh, Mariam, qui nous racontent leur vie. Et puis avec nous, Bendia, Serge et Marie-Laure, et nous avons demandé à Serge, ou plutôt Serge nous a volé le micro, pour partir à la recherche des archives de la famille.
Alors là, on est parti à la recherche de l'album de photos. C'est dans une armoire fermée à clé.
Album axe. Une album axe.
Alors maintenant, on ouvre l'album de photos. Elle va un peu nous expliquer ce qu'il y a dedans. Oh là, on voit une femme.
C'est elle-même.
Elle n'avait pas de voile pour faire la photo?
À 24 ans. C'est à partir de la révolution qu'elle porte le foulard.
Avant la révolution, elle ne portait pas de foulard du tout, même dans la rue.
Mais depuis la révolution, bon, elle le met même dans la maison. Son frère et puis sa femme. Ça, c'est son deuxième mari.
Et ça, c'est elle aussi?
C'est elle-même, le deuxième mari. C'était mon amour.
Elle caresse la photo alors.
Notre mariage a duré 23 ans à peu près.
Comment est-ce qu'elle l'a rencontré?
Il y a une amie d'elle qui était en voyage avec elle au nord et puis elle a rencontré l'histoire de sa vie à cet homme-là. Et lui, de loin, il a aimé cette histoire et puis il a eu des sentiments pour elle. Et en la voyant, il est tombé amoureux d'elle.
Là, on la voit de nouveau sans foulard. C'était avant la révolution?
Non, oui, c'était avant la révolution, mais c'était après le deuxième mariage.
Comment était la vie à cette époque? Est-ce que c'était plus facile de vivre avant la révolution?
De tous les points de vue, c'était mieux. On avait tout, c'était pas cher, on avait la liberté, c'était pas comme ça.
Mais pourtant, elle-même, elle a participé à la révolution.
Ouais. C'est parce qu'on nous avait promis plein de choses avant. On avait dit que tout sera gratuit pour vous, donc voilà, c'est pour ça qu'on a fait la révolution.
Et qu'est-ce qu'elle a fait pendant la révolution elle-même?
Il y avait une caserne des militaires, et ça a été vidé, et puis il y avait beaucoup d'armes. On allait là, on prenait les armes, et puis voilà. La révolution, j'avais toujours un Coran sur le cœur, et puis c'est avec ça que je sortais dans la rue.
Avec un Coran et avec des armes?
Oui.
Elle utilisait elle-même les armes ou elle les donnait à quelqu'un d'autre?
Oui, elle-même aussi.
Elle tirait sur quoi?
C'était pour faire peur. On les avait sur nous. Pour faire peur aux soldats.
Et maintenant, elle regrette de s'être tellement investie.
Je ne regrette pas de ce que je fais. Ce que je dis, c'est que pourquoi est-ce que les conditions de vie des gens sont difficiles actuellement? C'est ça qui me gêne.
Qui c'est il?
Les gens qui ont fait la révolution, quoi. Ceux qui étaient à la tête, qui voulaient faire la révolution.
Les enturbanés? Ceux qui ont un turban sur la
oui,
tête?
Oui, le turban.
Alors, je ne comprends pas très bien. Elle est très religieuse, elle fait ses prières, elle ne boit pas d'alcool, mais elle n'aime pas les mollahs. Pourquoi?
C'est parce qu'ils nous ont menti, je t'ai dit. Tout était gratuit, c'était promis comme ça, mais maintenant c'est pas comme ça. Donc ils nous ont menti, je n'aime pas le
mensonge.
Pourquoi tu demandes tant de questions?
C'est parce que nous, on a de la peine à comprendre que chez nous, les prêtres, ce sont des gens assez respectables qui sont dans les églises.
Mais si jamais un prêtre te ment, qu'est-ce que tu fais? Tu le suis toujours? Tu lui fais confiance encore?
Michel,
pas de politique.
Michel,
demande-moi plutôt quelle sorte de femme je suis, je te dirai forte.
Mais comment une personne forte comme elle alors a pu se faire avoir par les mollahs?
Même les plus forts que moi se sont fait avoir, quoi.
هر کجا سنگ گپی مال لورونه جونم هر کجا سنگ گپی مال لورونه جونم هر کجا لور بچه شیرین زبونه جونم شیر بگو ستا هو شیر بگو ششتا هو شیر بگو هشتا هو هی دای دای جونم زمرمم پر میسونم هی دای دای جونم زمرمم پر میسونم هر کجا لور بچه شیرین زبونه جونم هر کجا لور بچه شیرین زبونه جونم هر کجا لور بچه مال لورونه جونم شیر بگو ستا هو شیر بگو ششتا هو شیر بگو هشتا هو هی دای دای جونم سمرمم پل میسونم هی دای دای جونم سمرمم پل میسونم هر کجا ستاره ای تو آسمونه جونم هر کجا ستاره ای تو آسمونه جونم عاشق لور بچه شیری زبونه جونم شیر بگو ستا هو شیر بگو ششتا هو شیر بگو هشتا هو هی دای دای جونم سمرمم پل میسونم هی دای دای جونم سمرمم پل میسونم.
Vous écoutez Radio Suisse Romande La Première, Fred et Julie, en Iran. Aujourd'hui se termine là notre étape de ce week-end eurasiatique. Samedi prochain, nous sommes toujours en Iran.
Cette émission a été réalisée par Frédéric Chauffa et Julie Gilbert, à la technique Patrick Doram et à la musique Carmen Algarada.
Et la musique, ça ressemble à quoi?
Alors, on a entendu Bazar, Choré, Mehmet Ergin, Fatané, la musique pour Scheherazade et Persian Love Songs.
Samedi prochain, donc rendez-vous à 16h. Fred et Julie, c'est tous les samedis, tous les dimanches, 16h à 17h. Et puis, samedi prochain, on va aborder un autre thème. C'est toujours donc le Téhéran de avant les révolutions estudiantines. Téhéran, avant ça, ça ressemblait à quoi?
Radio Suisse Romande La Première, Fred et Julie, un détour du côté de la route.